Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux au chapitre 2. Nous allons la faire une petite série de Noël. Donc, on va mettre de côté Romains pour jusqu'à début de l'année. Épître aux Hébreux et au chapitre 2, je vais lire les quatre premiers versets. J'espère d'ici la fin de la matinée, vous verrez pourquoi ce passage est lu pour Noël. Donc, Hébreux chapitre 2, et j'ai lu les quatre premiers versets. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Nous n'allons pas voir tout ce qu'il y a dans ce passage, mais surtout voir le fait qu'ils mettent en valeur le message des anges, le message de ceux qui ont vu Jésus, et le signes et des prodiges. Donc le Sauveur confirmé, il est réellement le Sauveur, et là nous avons trois domaine qui confirme que Jésus est réellement le Sauveur. Donc il nous parle au verset 2, il nous parle de la parole annoncée par les anges, et il nous parle aussi au verset 3, par le message qui a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, et puis au verset 4, le témoignage des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit. Donc, nous allons commencer par le message annoncé par les anges. Bien sûr, il y avait l'ange qui a parlé à Marie, il y a le message qui a été donné à Marie lors de l'Annonciation. Et dans Luc chapitre 1, l'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et puis, alors, Marie pose une question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange répond, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors, voilà le message de l'ange à Marie. Ensuite, il y avait un message de l'ange à Joseph, dans Matthieu chapitre 1, où l'ange dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc là, c'était ni maman ni papa qui a choisi le nom. C'était le Seigneur qui a choisi le nom. Il a dit, vous l'appellerez Jésus. Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et ensuite, après la naissance de Jésus, le soir même de la naissance de Jésus, donc, il y a eu le message des anges auprès des bergers. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, donc Bethléem, il vous est né un sauveur, il le dit carrément, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Message simple, clair, hein, c'était compris, déjà d'une part par le choix du nom, hein, le nom Jésus ou Yeshua, qui veut dire le sauveur, et aussi, l'ange a dit clairement, il est le sauveur, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Pour certains peut-être pourraient poser question par rapport au choix des témoins. Jésus, Dieu, pourquoi tu parles à Marie? Personne ne la connaît. Elle n'a aucune influence. Ce n'est pas une personne connue qui peut rendre témoignage. C'est une fille timide qui ne dira rien. Hein, elle repassera les choses dans son cœur, mais elle ne dira rien. Et puis, pourquoi tu as choisi Joseph? Joseph, ce n'était pas une personne d'influence. Ce n'est pas une personne connue, c'était le charpentier, d'accord, mais c'est tout. S'il était charpentier, c'était qu'il n'était pas un érudit. Et après, tu donnes le message à des bergers. Mais des bergers, mais où est la crédibilité? Pourquoi des bergers? Et déjà, on voit que Jésus voit les choses très différemment. Hein, c'est pas chez les hommes, on pense que ce sont les intellectuels, que ce sont les politiques, que ce sont les avocats, que ce sont les gens reconnus qui sont les meilleurs témoins. Mais Dieu voit les choses autrement. Je vous rappelle que vous rappelez l'histoire de l'aveugle né. Hein, c'était quelqu'un, bon, aveugle-né, donc il n'a jamais lu, il ne savait pas lire. Mais il a quand même rendu témoignage devant les religieux, hein, les scribes, hein, et il s'est très bien défendu. Hein. Il avait un témoignage au tel point qu'à la fin, le seul argument qu'il leur laissait, c'était de le chasser de la synagogue. Hein, quand on chasse quelqu'un, manu militari, c'est parce qu'on ne sait plus quoi dire. Hein. Mais c'était un homme ordinaire. Vous savez, Dieu voit les choses autrement. Et finalement, c'était des personnes, hein, que ce soit Marie, que ce soit Joseph, que ce soit les bergers, c'était des témoins extraordinaires parce qu'ils n'avaient pas d'idées préconçues. Et puis quand ils ont raconté, ils n'ont pas interprété. Ils ont raconté les faits. Hein. Tandis que quelqu'un qui est un philosophe, lui, déjà, à peine qu'il commence à voir les choses, il commence à réfléchir, il a une interprétation, il va commencer. Jésus a dit, non, je prends des gens qui n'interprètent pas, qui disent les choses telles qu'elles sont. Et c'était les meilleurs témoins. Et nous pouvons leur faire confiance parce qu'ils n'avaient rien à gagner. Ils n'ont rien gagné, ils ne sont pas devenus riches, ils ne sont pas devenus puissants, ça n'avait rien à rapporter à eux personnellement. Mais ils ont pu dire ce qui leur était arrivé et ils le raconteront à Luc, hein, lorsqu'il les consultera. Et c'est justement Luc qui va, beaucoup plus tard, hein, qui va prendre sur lui, poussé par les seigneurs certainement, qui prendra sur lui d'aller se renseigner. Et Luc, le médecin, mais... il n'est pas disciple, il n'est pas prophète, il n'est pas pharisien, il n'est pas quelqu'un qui a fait des études au pied de Gamaliel. Luc va, et puis il va recueillir les informations. Il veut les faits. Et c'est ce qu'il nous dit au début de son évangile. Hein. Tout de suite, il nous dit comment il compte recueillir ces informations. Hein, Luc chapitre 1. Et verset 1, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. » Donc, il a choisi des personnes qui ont vu, pas seulement deuxième main, troisième main, des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, de manière suivie, excellent Théophile. » afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc il dit, voilà, je vais faire le travail d'un journaliste, je n'ai pas d'idée préconçue, je vais poser les questions, je vais interroger tous ceux qui ont vu, et ils me parleront de ce qu'ils ont vu. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que Luc écrit de la vie de Christ, eh bien, ce n'est pas en contradiction avec ce que Matthieu va écrire, qui était un disciple, ce n'est pas en contradiction avec ce que Marc va écrire, ce n'était pas en contradiction avec ce que Jean va écrire. Ça va aller dans le même sens, et il aborde les choses d'une autre manière, lui, ses textes. Et puis nous voyons comment il écrit même, parce que c'est lui qui rédige le livre des Actes, et le livre des Actes, il fait exactement la même chose, il nous rapporte, et le livre des Actes est considéré comme un livre historique. Il nous dit exactement comment les choses sont passées. Et donc, c'est une personne qui a pu rendre ce témoignage. Et bien sûr, c'est le message rapporté, c'est Luc qui va interroger, il va trouver ses bergers, il va trouver Marie, qui ne parle pas, il va la faire parler, il va trouver Joseph et lui dire, écoute, dans quelles conditions tout ça, ben, c'est là où il devra admettre que, oui, j'avais du doute par rapport à elle, je ne savais pas pourquoi elle était enceinte, et ceci et là, j'avais voulu, c'est là où il va le raconter. Et Luc va dire, bon, raconte tout ça, je veux savoir exactement comment ça s'est passé. Et donc, nous avons le témoignage des anges qui nous est rapporté. Peut-être que vous pourrez vous étonner de ce qu'il n'y a rien sur la naissance de Christ dans l'évangile de Marc, mais sachez que Marc écrivait et décrivait Jésus en tant que le serviteur, hein, l'esclave. Et vous savez, pour les esclaves, eh bien, on ne s'interroge pas sur comment ils sont nés et de qui est leur père, ni leur mère, ni rien du tout. Hein, c'est le serviteur. Et donc il n'aborde pas la naissance de Jésus. Ça n'a aucun rapport avec son thème. Et puis l'apôtre Jean aussi ne donne rien sur la naissance de Christ. Pourquoi ? Parce que justement, il présente la divinité de Christ, le Fils de Dieu incarné. Et donc, si c'est divinité, il n'y a pas de naissance, hein, il n'y a pas d'origine. Le Jésus, homme, sa partie humaine, il y a une naissance, il y a un commencement. Hein, son corps a commencé à exister à partir de sa naissance à Bethléem. Mais sa divinité, elle était toujours. Hein, il disait avant qu'Abraham fût, je suis. Hein, donc c'est tout à fait normal que l'apôtre Jean ne traite pas de la naissance, même s'il dira au commencement était la parole, et il dira un peu plus tard, au verset 14, il dira et la parole est devenue chair, et elle a habité, ou elle a vécu dans un temple parmi nous. Hein, il parlera du corps comme une tente, comme un tabernacle, et dans lequel se trouvait Dieu. Hein, donc tout concorde, tout va ensemble. Et donc, mais Jean dira, à la fin de son épître, hein, il dira quand même, hein, dans Jean chapitre 20, verset 31, il dira, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, que vous ayez la vie en son nom. Hein, donc, le message est clair, hein, que ce que j'ai écrit, ce que j'ai rapporté, c'est pour que vous sachiez que Jésus-Christ, eh bien, c'était vraiment le Christ, c'était le Fils de Dieu, et que, en croyant, hein, nous accaparant de ces réalités, ces vérités, hein, et qui vous feront vivre par ces choses, eh bien, vous ayez la vie, vous l'ayez la vie, pas que vous aurez la vie, mais que vous avez la vie à ce moment-là. Donc, le fait que Jésus soit sauveur, eh bien, est confirmé et déclaré par le message des anges. Hein. Les personnes avaient le contrôle sur les anges et ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Hein. Ils avaient reçu un message à transmettre et qui nous a été rapporté. Donc Jésus est réellement sauveur à partir de là parce qu'il a été déclaré. Mais ensuite, donc dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il nous parle aussi de ceux qui ont vu le Seigneur, hein, donc il nous dit, et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, hein, ceux qui étaient là présents. Hein, et un témoin, on évalue toujours un témoin par dit, mais est-ce que tu as vu, ou est-ce que tu as seulement entendu, est-ce que tu étais là, ou est-ce qu'on t'a raconté, quoi. Et plus il est proche de la chose, plus il a vécu la chose, plus il est un témoin valable. Et le message de ceux qui ont entendu le Seigneur, hein, réellement de leurs oreilles, eh bien, ils étaient nombreux, hein, ils étaient encore nombreux quand le Nouveau Testament a été rédigé. C'est pas quelque chose qui a été rédigé bien après que que les histoires ont pu circuler, hein, vous savez comment c'est, hein, chez les hommes, hein, plus ça circule, c'est comme une rivière, hein, l'eau de source, elle est propre, mais plus ça va, plus ça charrie les choses. Mais les messages, ils datent de... C'est-à-dire tout le Nouveau Testament était rédigé avant que tous les témoins oculaires soient morts. Hein, donc, on pouvait vérifier. Et Jean dira, au chapitre 19, verset 35, il dit, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Il parle de lui-même, il dit, je vous dis cela, Et mon témoignage, il est vrai, je vous assure, et vous pouvez croire, et vous pouvez placer confiance. Il dira même dans sa première épître, donc dans 1 Jean, et au chapitre 1, et c'est comme ça qu'il commence son évangile, son épître, pour encourager les croyants par ailleurs, et bien dans ce... Chapitre 1, les 4 premiers versets, il fait un effort pour montrer comme quoi il est réellement un témoin fidèle. Parce qu'il dit au verset 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. » Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui était en passant comme ça. Non, on a pu contempler, on a pu... observer pendant un temps, prendre le temps de regarder ce que nos mains ont touché. Donc il était du vrai. Hein, c'était même, vous vous souvenez, Thomas qui n'était pas sûr que Jésus était bien ressuscité,